Yeah. Bonjour à tout le monde. C'est toujours une grande joie pour moi de venir ici parce que on se rend pas compte que ici où je me trouve, c'est sur le lieu saint et que c'est pas tous les jours, que c'est pas cette chance, cette opportunité n'est pas donnée à tout un chacun. Donc si Dieu me donne cette opportunité, chaque fois que je me tiens ici, je loue le Seigneur, je me dis mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu me permets de faire des choses auxquelles je n'avais peut-être pas pensé dans ma jeunesse. Parce que quand je voyais des prédicateurs, je me disais, ça, ce n'est pas mon travail. J'ai autre chose à faire. Maintenant, je le fais, non seulement dans cette église, mais aussi dans d'autres églises où je suis passé dans certains pays. Et c'est là où je me dis que Dieu a des projets. Il y a des projets pour chacun de nous et que nous, ce que nous devons faire, c'est tout simplement d'obéir, d'obéir à la volonté de notre Père. Voilà. Le thème que je choisis aujourd'hui, c'est le thème de la fraternité. Et pourquoi ce thème? Et nous aurons l'occasion de voir en détail, mais je le fais dans le cadre d'explication du plan de ministère que notre Église est en train de mettre en place. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, le pasteur vous a présenté le plan de ministère et il a été demandé à tous les membres du comité officiel d'aller en détail dans les différents domaines de priorité que nous avons choisis pour que vous puissiez les maîtriser. Parce que le plan d'action qui a été proposé, il sera mis en œuvre par vous, par l'Assemblée, par les membres de notre Église. Et c'est important que vous puissiez mieux comprendre chaque domaine d'intervention qui a été proposé. Et le message qui va nous aider pour comprendre ce thème, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, et qui nous dit, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et parfait. Tu nous es toujours dans la lecture. Est-ce que tu peux nous lire de Luc 10, 25 à 37?
Luc 10, 25
À
à
37.
37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, était venu là, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Va. Et toi, fais de même. Amen.
Merci. En fait, oui, comme je vous l'ai dit, le thème, c'est la fraternité. Et le texte que nous lisons, c'est Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous verrez qu'au verset 27, je n'ai pas pris toute la réponse, comme c'est écrit, qui est écrit dans notre loi. Comment comprends-tu ça? Commençons par dire pour le contexte. Nous voyons Jésus et nous voyons que un docteur de la loi, ça veut dire un spécialiste de la loi, qui vient et qui pose des questions. Et nous savons que dans ce contexte de Jésus, des gens venaient lui poser des questions, non pas parce qu'ils voulaient des réponses, mais parce qu'ils voulaient poser des pièges. Le docteur de la loi le faisait, les pharisiens le faisaient. Mais regardons la façon dont Jésus a répondu à la question. On s'attendait, parce que je commence, je lis. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Ça, nous sommes habitués à voir des choses pareilles. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? En fait, ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante qu'on peut poser à Jésus pour dire, oui, Jésus qui était un enseignant, et nous savons que la plupart des enseignements que Jésus donnait tendaient à ce qu'on va voir dans la vie éternelle. Donc, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette Bible, c'était pour obtenir la vie éternelle, mais dans d'autres Bibles, c'est écrit, que dois-je faire pour hériter? Dans lui, second, c'était pour hériter la vie éternelle. Ça veut dire pour mériter. Ça veut dire pour être sûr d'avoir la vie éternelle quand je serai plus sur terre. C'est une question très intéressante. Alors Jésus, la réponse que lui donne, Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment comprends-tu? En fait, Jésus connaissait bien que c'est un homme de la loi. Il connaissait même son intention de lui tendre un piège. Mais il lui dit, et toi, tu es homme de la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Nous voyons la réponse de l'homme de la loi. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est, nous connaissons que ça, c'est le résumé des 10 commandements que Jésus a fait pour montrer que si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, toute ton intelligence, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, en fait, tous les commandements sont complices dans ce résumé. Bon, en fait, Jésus dit, mais tu as tout compris. Mais tu as tout compris. Non, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie éternelle. En d'autres mots, si nous respectons les commandements de Dieu, si nous respectons les commandements de Dieu, vous savez comment les commandements, les 10 commandements sont écrits? Ils sont écrits sous forme impérative. Vous savez, tu fais là ça, tu fais là ça, tu fais là ça. Donc, si tu respectes les commandements de Dieu, tu auras la vie éternelle. En fait, c'était presque un point final à ce moment-là. Parce que Jésus répondait à la question que le juriste ou l'homme de la loi avait posée. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela alors, et tu auras la vie éternelle. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner encore raison, reprit. Parce que je voulais mettre Jésus au chaos, mais il n'a pas pu. Maintenant, il reprit. Et, oui, mais qui donc est mon prochain? Parce que dans la deuxième partie de ces deux commandements, dans les 10 commandements, c'est tu aimeras Dieu, ton Dieu, tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Alors, l'homme de la loi dit, mais qui est mon prochain? Parce que j'ai beaucoup de prochains, qui est alors mon prochain? Et c'est là qui est intéressant, et c'est là où nous rejoignons notre thème de ce jour, la fraternité. Vous savez que dans les 10 commandements, il y a ce que nous appelons une relation verticale qui nous lie avec Dieu, mais aussi une relation horizontale qui nous rapproche ce que nous devons faire avec notre prochain. Alors, l'homme de la loi dit, mais oui, je comprends bien, mais qui est alors mon prochain? Alors, c'est là où nous voyons l'histoire du bon samaritain que vous connaissez. Je ne vais pas aller dans tous les détails du bon samaritain, mais nous voyons un homme qui a été attaqué par des brigands, et ceci, on le voit tous les jours, mais maintenant, et qui l'ont tabassé, qui l'ont dépouillé de ce qu'il avait, et qui l'ont laissé comme mort. Mais des personnes vont passer à côté de lui et le garder comme ça, le garder comme ça et s'en aller. Mais si on nous donne l'exemple que la première personne qui est passée, c'est un prêtre, c'est un prêtre, quelqu'un, un religieux, qui normalement devait avoir pitié de ces personnes qui étaient blessées et qui étaient presque mortes et le secourir. Mais il le regarde et puis il contourne et il s'en va. Peut-être qu'il se disait, je suis en retard, je vais faire ma prédication à l'église, donc ça va me prendre du temps. Il s'en va. Et puis il y a un autre lévitique qui vient et qui passe et qui voit quelqu'un qui est blessé, qui est en train de saigner, il dit, ben, peut-être que c'est un bandit qu'on a tabassé. Vous savez, les idées qu'on se donne quand on voit des images pareilles, lui aussi il passe. Certainement qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont passées et qui n'ont rien fait. Mais il vient une personne, un Samaritain. Les deux premiers, c'était des gens, des compatriotes qui n'ont rien fait. Mais le Samaritain, c'était un étranger par rapport à la personne qui était attaquée. Et puis, quand il le voit, il est pris de pitié, de compassion, et il s'arrête. Il s'arrête, il se débrouille, tant qu'il peut. Je ne cherche pas tous les moyens d'arrêter l'hémorragie, de mettre un peu d'huile pour les premiers soins, de mettre sur son cheval ou son âne, je ne sais pas. Et puis, il l'amène quelque part pour l'héberger et il donne une caution à l'hôtel pour qu'on puisse continuer à le soigner. Il dit, je m'en vais et je reviendrai parce qu'il allait quelque part seulement dans une mission. Je reviendrai et faites tout ce que vous pouvez pour aider cette personne et tout ce que vous allez dépenser, je vais vous rembourser. Souvenez-vous que le Samaritain n'était pas c'était une catégorie de gens qui n'ont pas le même langage. Ça veut dire que c'était considéré comme des étrangers et que les Juifs les méprisaient. Mais il a fait tout son mieux, il a fait mieux que tous les autres. Et puis Jésus lui répondit alors, il posa la question, parmi toutes ces personnes, qui est le bon voisin? Parce que la consigne était, mais là, ton prochain comme toi-même, qui a été son bon prochain alors. La réponse est facile. L'homme de la loi dit, bien sûr, c'est le Samaritain. Ici, j'essaye de concilier ce texte avec la fraternité. La fraternité que nous sommes en train de prêcher dans notre Église. Et dans ce texte, je vais souligner deux choses. La première, c'est la question qui a été posée par l'homme de la loi. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Cette question aussi nous intéresse, nous aussi. Tant que nous sommes encore sur cette terre, nous devons toujours nous poser cette question. Que dois-je faire pour que je puisse hériter, pour que je puisse avoir ou mériter la vie éternelle? On verra ça dès la fin de la présentation. Notre question, c'est de mon voisin. Mais qui est mon voisin? Mon voisin, ce n'est pas seulement celui qui est à côté de moi. Mon voisin, c'est toute personne que je rencontre, même que je n'ai jamais vue, mais qui a cette personne, même pour voir est-ce que cette personne que je rencontre, qui est à côté de moi, qui est dans la même église que moi, est-ce qu'il n'a pas un besoin pour lequel je peux être utile? C'est ça la question. C'est ça la question. Et c'est la question que nous essayons de répondre quand nous allons aller en détail dans notre thème de fraternité et pour notre Église. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Enfin, j'essayais de donner une réponse de cela. La fraternité, c'est une relation. C'est le lien que nous devons avoir, ce lien familial que nous devons avoir, ce sentiment d'entraide, ce sentiment de se sentir utile à l'autre personne. Et normalement, que nous avons dans notre famille, quand vous avez une famille, quand votre frère ou votre soeur a un problème, en fait, lorsque vous entendez que votre soeur ou votre frère est malade, vous ne dites pas, oh, ça va, il va guérir. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que je dois faire quelque chose? C'est ce sentiment de redevabilité, ce sentiment d'entraide, d'amitié, de lien, et que nous appelons fraternité. Et c'est ça que nous voulons pas développer, mais en tout cas encourager dans notre communauté de Saint-Henri. Prochaine diapositive. Oui, ceci très rapidement m'amène à parler du plan de ministère. Je vous ai dit que je ne suis pas en train de présenter le plan, mais je fais allusion à ce plan parce que quand ce plan a été élaboré par le comité, par notre comité, le comité officiel, le plan est accompagné du plan de ministère. C'est un document. C'est un document qui montre, comme je l'ai dit ici, qui montre nos objectifs, qui montre où nous voulons aller, qui montre ce que nous sommes comme Église, qui montre aussi nos orientations. C'est ça le document. Il vous a été présenté et vous avez reçu une copie. S'il y en a qui n'ont pas encore cette copie, je crois qu'il y a encore des copies au niveau du secrétariat. On peut vous donner ça. Et je vous dis qu'aussi, il y a un plan stratégique, un plan d'action, aussi qui a été présenté. Son plan qui a des objectifs spécifiques, des activités qu'on doit mener et ce que ça va nous coûter. C'est ça qu'on a produit au niveau du comité. Mais nous voulons que tout cela soit à votre portée, que tout cela soit à votre compréhension. Mais pour que vous, parce que la mise en œuvre, ce sera vous. Ça veut dire vous, ça veut dire la congrégation qui va le faire. Et il a été demandé à chaque membre du comité officiel de présenter un domaine d'intervention. Ce qu'on appelle un domaine de place. Qu'est-ce que c'est un domaine d'intervention? Prochaine diapositive. Prochaine. Oui, très rapidement pour insister sur nos valeurs en tant qu'Église de Saint-Henri. Le plan d'action de ministère que nous avons fait, nous l'avons fait de façon à être spécifique pour notre Église. Et notre Église a certaines valeurs que vous voyez toujours dans le rapport de notre Église. Parce que nous voulons que notre Église soit une famille. Qu'est-ce que c'est une famille? Une famille parce que nous voulons que chaque membre de cette Église se sente en famille. Et dans une famille, il y a bien sûr les parents et nous, notre famille, notre père, c'est Dieu. Mais nous, en tant que membres, nous sommes des frères et des sœurs. Cette Église, c'est un lien de partage. Un lien de partage parce que quand nous venons dans cette Église, c'est aussi pour rencontrer des frères et des sœurs, partager ce que nous avons comme peine et comme souffrance, mais aussi comme plaisir, mais aussi comme opportunité dans la vie, parce que nous sommes une même famille. Et c'est aussi un lieu de refuge dans le sens où dans la vie, nous avons toujours, tout n'est pas rose dans la vie. Des fois, nous avons des problèmes. Et quand nous venons ici, c'est un lieu de refuge parce que nous nous réfugions devant notre Père. Et notre Père, quand nous venons ici, nous avons le droit de pleurer devant notre Père parce qu'il nous écoute. Nous avons le joie aussi de lui raconter toutes nos misères parce qu'il nous écoute. Et c'est ça l'avantage d'avoir une famille, d'avoir cette Église. Mais c'est aussi un lieu de valorisation. Un lieu de valorisation que quand nous venons ici, ce n'est pas seulement pour assister, c'est aussi pour apprendre, c'est aussi pour avancer dans notre compréhension de la parole. C'est aussi un lieu où nous apprenons à aller au-delà de ce que nous sommes. C'est un lieu où nous apprenons, aussi nous apprenons à devenir plus que ce que nous sommes, pour être plus mûrs que ce que nous sommes. Nous parlons maintenant des domaines d'intervention. Nous avons dit c'est un ministère, le plan de ministère. Dans une église, dans toute société, quand on veut faire quelque chose, il y a beaucoup de choses à faire. Et le plan de ministère que le comité a élaboré a voulu mettre de l'ordre dans une certaine orientation dans les activités. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais le domaine prioritaire que le comité a choisi, c'est six. Le premier, c'est les enfants, les ados et les jeunes. Deuxième domaine, c'est la fraternité. Troisième, c'est prière, jeûne et louange, formation, évangélisation, administration, finances et bâtiments. Vous me direz, mais dans l'Église, nous faisons plus que ça. Oui, nous faisons plus que ça. Mais le plan de ministère qui a été élaboré, en fait, n'empêche pas de faire ce que nous continuons de faire, mais de se dire, les domaines que je viens de citer, ils sont prioritaires. Et c'est ça, on va donner plus d'emphase, plus plus de poids à ces domaines pour que notre Église puisse réellement faire un travail qui répond aux objectifs que nous sommes fixés. Prochaine diapositive, oui. Bon, nous parlons maintenant, enfin, dans les différents domaines. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, notre frère Pasteur Iman avait présenté le domaine d'enfants, ados et jeunes. Il a parlé de ce domaine. Et maintenant, je vais parler du domaine de la fraternité. Qu'est-ce que c'est la fraternité? En fait, je vous dis que la fraternité ou amitié fraternelle, c'est l'expression du lien affectif, de solidarité, d'amitié qui unit les membres d'une même famille. Nous avons dit que nous sommes une famille, assez, nous sommes une famille. Alors la fraternité, c'est ce lien qui nous unit. Pourquoi nous parlons de fraternité, effectivement, au niveau de notre Église? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que nous nous sentons étrangers entre nous? Peut-être pas, peut-être pas. Mais au niveau du comité, quand nous sommes réunis, nous avons dit oui, la façon dont nous vivons, c'est bien. Oui, nous sommes des frères et des sœurs, mais peut-être qu'on peut faire mieux ce que nous faisons. Notre Église est une famille, et en tant que membres de cette famille, nous avons Dieu comme notre Père, et nous sommes donc des frères et des sœurs. On se parle comme ça, nous nous parlons en tant que frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que nous sommes des frères à tous ceux qui ont connu Dieu, à tous ceux qui l'ont cru. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes donc enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme Jésus aussi est enfant de Dieu, Jésus est notre grand frère. Quel bonheur, quelle chance que nous avons de comprendre que Jésus, c'est notre grand frère. Nous avons le devoir de vivre donc une communion fraternelle, de solidarité et d'entraide, comme le faisaient les disciples dans les premiers temps. Nous savons que ceux qui ont lu le livre des Actes, nous savons que les apôtres, les disciples, comment ils vivaient ensemble, ils mettaient tout ensemble, ils se communiquaient, ils mangeaient ensemble, et c'était même vendre des propriétés pour amener tout l'argent ensemble, pour vivre ensemble. On ne vous demande pas de faire comme ça, de vendre tout ce que vous avez pour que nous puissions vivre ensemble ici. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est de penser aux autres. De penser que si vous avez plus que, si tu as plus que ton frère ou ta soeur, pense aussi à aider ton frère. Et c'est ça l'esprit de fraternité que nous voulons cultiver. Nous voulons cultiver cet esprit de savoir, est-ce que si je dors bien dans ma maison, est-ce qu'il n'y a pas un frère qui est en train de dormir dehors sous la neige? Est-ce que si je mange bien, j'ai assez de quoi manger? Est-ce qu'il n'y a pas un frère de notre église? Je parle maintenant de notre église. Un frère de notre église, une soeur qui n'a pas eu de quoi manger aujourd'hui. Est-ce que si j'ai 5 vestes dans ma garde-robe, est-ce qu'il n'y a pas un frère qui n'a pas même, qui n'a pas, qui n'a qu'une seule chemise qu'il doit mettre tous les jours? C'est ça la solidarité que nous voulons. C'est ça la solidarité de l'église que nous voulons. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. On peut montrer que nous sommes solidaires, mais le plan d'action prévoit que on peut payer. Mais nous avons les défis. Prochaine diapositive. Mais nous avons les défis. Les premiers défis, ce sont les visites. Nous avons insisté, nous insistons que les membres de la congrégation de Saint-Henri puissent avoir, se sentir cette solidarité aussi de voir les autres, de se visiter, de savoir ce que l'autre membre de notre famille vit. Et oui, c'est vrai que les gens se rendent des visites, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant et que ça peut être augmenté. Il y a des contraintes liées aussi à notre vie ici en ville. Et parce qu'on ne peut pas visiter des gens comme on veut. Nous sommes liés par des contraintes de notre vie de travail, de notre vie familiale, et que les visites ne peuvent pas être comme nous voulons. Mais aussi, il y a le contexte culturel, parce que nous venons de des horizons différents. des pays différents où nous n'avons pas nécessairement le même entendement, la même signification, oui, non seulement des visites, mais aussi la façon de vivre ensemble. Je m'en souviens, je sais que dans certaines organisations, quand tu y entres pour travailler international, l'une des choses qu'on te dit, noir sur blanc, la condition, c'est d'être capable de travailler dans un milieu de plusieurs interculturels, dans un milieu de plusieurs cultures. Donc, ça veut dire être capable de pouvoir t'adapter dans un milieu polyculturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture de votre pays, de mon pays, de son pays, ne sont pas nécessairement les mêmes. Ce que je considère comme blague chez moi peut être considéré comme une insulte dans votre culture. Ça veut dire qu'il faut aller délicatement dans ces relations. Mais on ne peut pas le savoir si on n'a pas mis ensemble ces différentes cultures. Et c'est ça que nous voulons qu'au niveau de notre Église, nous puissions avoir cette possibilité de confronter notre vision des choses de différentes cultures. Et notre société qui favorise l'individualisme et l'égoïsme, je dis notre société ici au Québec, au Canada, n'est pas nécessairement ce que nous vivions chez nous. Je me rappelle que ici, quand certains événements peuvent arriver dans des familles, pour la plupart des pays africains, on s'invite dans la famille pour aller voir, visiter la famille. Par exemple, si c'est un décès, s'il y a une naissance, on peut s'inviter, si on est amis, pour dire oui, les gens savent accepter ça. Mais ici, ce n'est pas toujours acceptable que tu puisses intervenir dans une famille si tu n'as pas été invité, si tu n'as pas demandé l'autorisation d'y aller. Mais tout ceci, on apprend avec le temps. Voilà. En fait, pourquoi est-ce que dans le plan de ministère de notre Église, nous avons insisté sur ce côté-là de fraternité? C'est parce que nous trouvions qu'il y avait des failles. Nous avons des failles. Et c'est ça que. C'est pour cela que nous sommes entrés, nous avons proposé des. Comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Et l'une des propositions que nous proposons, c'est de faire des efforts pour dépasser les différences culturelles et de vivre son lien familial. Et la façon de le faire, ce sont des rencontres, ça peut être des visites dans la maison, se téléphoner régulièrement, s'inviter, les sorties qu'on peut faire, et comme ce qu'on a fait quand on a été à Québec. Ça veut dire tout simplement favoriser le contact des gens, que les gens puissent se mettre ensemble. Et quand on se met ensemble, on discute. Quand on discute, on se découvre mutuellement. Autre proposition, c'est d'encourager les membres à se sentir solidaires. Et c'est intéressant ce que nous avons vu. J'ai pris ça comme un bon exemple quand les collègues de Ghana sont venus. Moi, j'ai remarqué une certaine engouement dans l'ouverture, dans l'offre de services à ces jeunes gens que je n'avais pas vu avant. Et j'aurais aimé que ça puisse continuer aussi dans d'autres domaines. Quand je vois quelqu'un qui souffre, moi, j'ai une table que je n'utilise pas. Je me souviens d'autres personnes qui disent, moi, j'ai un bureau que je n'utilise pas. Est-ce que quelqu'un peut la prendre? Et c'est ça, la solidarité que nous voulons. Oui, parce que ce que vous avez de trop, ou même pas de trop, ce que vous pouvez donner, hein, donner aux autres qui en ont besoin. Encourager l'entraide de dons, l'assistance, la redevabilité. Cette envie de rendre service. Oui, et quand vous êtes là et que vous sentez que si un frère ou une sœur a un besoin, sentez-vous l'obligation, c'est une obligation, c'est un devoir de pouvoir aider, de pouvoir aider ton frère. Est-ce que nous avons cette envie? Est-ce que quand nous entendons que un frère est malade, hospitalisé, est-ce que je sens à moi immédiatement le désir d'aller le voir à l'hôpital? Si je ne l'ai pas, ça veut dire que notre degré de fraternité n'est pas encore assez avancé. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons que cette solidarité entre nous puisse être à haut niveau. L'autre, c'est améliorer la façon d'accueillir les nouveaux membres et de suivre. Oui, quand je parle de nouveaux membres, ce n'est pas le côté quand ils sont fait la formation. Le côté des personnes qui arrivent pour la première fois. Nous pensons que peut-être il faut améliorer cet aspect. Parce que quand quelqu'un entre dans une église pour la première fois et qu'à la fin du culte, personne ne lui dit bonjour, cette personne a très peu de chance de revenir. Donc, tout ça, ou bien quand une personne vient et que personne ne donne pas son adresse pour l'appeler téléphoner plus tard, je pense que cette personne a peu de chances de revenir. Et se sentir préoccupé par les problèmes que peuvent vivre son frère ou sa soeur et chercher comment l'aider. Et c'est ça, c'est ça notre objectif. Quand je dis notre, ça veut dire notre Église doit se sentir solidaire et d'entraide, dans la solidarité avec nous tous. Bon, ça, c'était un point pour souligner le domaine de fraternité, comment il est et ce qu'il compte faire. La question que vous pouvez vous poser, mais en quoi est-ce que cela est lié au message du jour? Aime ton prochain comme toi-même, mais ça va tout seul. Nous avons vu comment qui est notre prochain, mais je voudrais que nous puissions lire encore. Parfait, tu vas encore nous aider. D'aller dans Matthieu 25, Matthieu 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46.
Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen.
En fait, j'ai choisi ce texte parce qu'effectivement, il répond à notre thème sur la fraternité, de savoir pourquoi est-ce que nous insistons sur la fraternité dans notre Église. Nous avons vu ce que nous faisons, nous avons vu les défis que nous avons, mais pourquoi nous proposons tout ça? Parce que tout simplement, ce que nous venons de voir dans ce texte, c'est que aimer son prochain comme soi-même, c'est bénéfique, bien sûr. C'est bénéfique parce que quand on rend service à son prochain, à son frère, à sa soeur, c'est bénéfique pour la personne parce qu'elle en a besoin. Une personne qui est malade, que vous êtes à l'hôpital, c'est bénéfique pour lui. Une personne qui a faim, ok, vous donner à manger, c'est une bonne chose. parce que il a de quoi manger, en plus tu as soif. Une personne qui n'a pas au logis que vous logez, c'est bénéfique pour cette personne. Mais ce que nous voyons ici, c'est plus que ça. Être, aimer son prochain comme soi-même, rendre service à quelqu'un, porter assistance à son voisin, à son frère, à sa sœur, en cas de besoin, c'est plus que rendre service à cette personne, parce que ça équivaut à porter assistance à Jésus-Christ. Et c'est ça la clé de notre travail. Oui, nous voulons rendre service à notre voisin, mais sachant qu'ici, en rendant service à notre prochain, en fait, nous sommes en train de préparer notre avenir. Nous sommes en train de préparer notre place à la vie éternelle. Regarde ce que Jésus a dit. Chaque fois qu'il dit, quand il dit, vous avez écouté le texte et vous le saviez déjà, les justes se mettent d'un côté et les mauvais, comme il dit, de l'autre côté. Il dit, chaque fois que vous avez fait ceci, chaque fois que vous avez logé quelqu'un qui n'a pas de logement, chaque fois que vous avez aidé la personne qui était blessée sur la route et vous l'avez aidé à aller à l'hôpital, chaque fois que vous avez donné une petite pièce de monnaie à la personne qui mendiait à la gare, au métro, pour s'acheter de quoi manger, chaque fois que vous avez donné une chemise à cette personne qui n'en avait pas, chaque fois que vous avez fait du bien à une autre personne, en fait, vous le faisiez à mes petits frères. C'est ce qu'il dit ici. Jésus dit, vous le faisiez à mes petits frères. Ça veut dire, vous le faisiez à moi. Et c'est pour cela que je veux vous, que j'apprécie ce que vous avez fait et que je vous donne une récompense. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. Cette récompense, c'est le paradis. Donc, ce que nous faisons, quand nous parlons de la fraternité, nous venons de notre Église, en fait, nous sommes en train aussi de préparer notre avenir à la vie éternelle. Et au contraire, bien sûr, c'est les méchants. Hein, aux méchants qui disent, vous, restez là, vous allez recevoir la punition que vous méritez. Et c'est parce que chaque fois que vous avez refusé de faire ce que je viens de dire, vous avez passé à côté d'une personne blessée. Et puis vous avez continué. Chaque fois que vous avez refusé de donner de quoi manger à la personne qui avait faim, chaque fois que vous avez quelqu'un que vous connaissiez qui était hospitalisé et vous n'êtes pas allé le voir, c'est à mes petits frères que vous n'avez pas fait ça. Et c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Et que vous n'avez pas de place à côté de moi. Votre place n'est pas ici. Autre chose, c'est à côté, c'est dans l'affaire, donc dans le feu éternel, comme c'est dit ici. Donc, ici, si vous voulez lier cet aspect de fraternité au niveau de notre Église, de voir que c'est important de le faire, non seulement parce que les gens qui reçoivent ces services de notre part, qui reçoivent cette attention de notre part, en fait, nous le faisons pour eux, mais nous le faisons surtout aussi pour le Christ, parce que c'est ça ce que nous demandons de faire, parce que c'est ça le commandement que nous a donné de faire, de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous voulons du bien pour nous-mêmes, nous devons aussi faire du bien pour notre voisin. Et notre voisin, c'est vous qui sont dans cette église et qui sont, comme nous appelons, nous sommes des frères et des sœurs, mais aussi dehors, en dehors de l'église, toute personne que nous allons rencontrer dans la rue. Et quand je parle de la rue, chaque fois que je voyage, je me promène dehors et que je vois des mendiants et que je n'ai pas une pièce à donner, je pense toujours à ce texte. Toujours à ce texte. Est-ce que des fois, je ne donne pas, même si j'ai un peu de pièce dans ma poche, je ne donne pas parce que je vois ces gens-là, ils sont en train de toujours demander. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu voit ça? Et c'est comme ça que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu nous dit, tout ce que vous avez reçu ça. Hein? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ce que toi, tu l'as reçu. Toi aussi, donne quelque chose aussi à ton voisin. Et c'est ça, la fraternité. Voilà. C'est ça le message que j'avais à donner ici, surtout pour expliquer le plan de ministère, mais aussi pour expliquer notre comportement avec notre voisin et de faire une auto-évaluation individuelle et de savoir est-ce que dans mon comportement avec les autres, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux corriger? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que le texte que nous venons de voir du jugement dernier, est-ce que Jésus, Dieu, quand il reviendra au jugement dernier, est-ce que je serai dans le bon côté, à sa droite ou à sa gauche? À toi maintenant de voir. Toi de la chance, mon ami. Toi de la chance aujourd'hui parce que tu as encore du temps, parce que tu es encore vivant et tu peux te corriger. Regarde de quel côté tu es. Regarde de quel côté où tu peux te corriger. Et regarde d'un bon œil ton voisin. Parce que ton voisin que tu as là nous présente Jésus. C'est ça que tu dois voir chaque fois que tu fais du bien. Pense que oui, est-ce que je suis en train de faire du bon travail? Est-ce que Jésus est en train de est-ce qu'il est content de mes actes? C'est maintenant le moment de changer. Si tu n'as pas encore changé, c'est maintenant de faire du bien. Parce que demain, tu ne sais pas ce que sera. Tu ne sais pas ce que tu, où tu seras. Ou même si tu seras. Amen.